Je vais maintenant laisser la place à Émile Nicole pour son troisième exposé biblique sous forme de prédication. Je lui laisse la place.
Dieu pardonne. Avec ce dernier thème, nous approchons dans l'Ancienne Alliance au plus près de la grâce, de cette grâce qui est spécifique à la Nouvelle Alliance. Selon les mots du prologue de Jean, la grâce est venue par Jésus-Christ. Alors nous avons déjà perçu au cœur de l'Ancienne Alliance le déploiement de la grâce divine dans la libération accordée au peuple d'Israël. Nous l'avons perçu aussi, cette présence de la grâce dans la loi elle-même. Dans la loi, il y a déjà de la grâce. Mais avec l'affaire du veau d'or, la présence de la grâce au cœur de l'Ancienne Alliance est encore bien plus manifeste. J'ai titré « Dieu pardonne », on pourrait tout aussi bien titrer « Dieu fait grâce ». Cette affaire du veau d'or, elle intervient dans le récit du don de la loi comme un contretemps horrible et scandaleux. Et le drame se produit alors que le processus du don de la loi, de l'engagement dans l'Alliance, était entré dans leur phase ultime. C'est un peu comme une rupture le jour même du mariage. C'est alors que Moïse achève de recevoir sur la montagne les instructions concernant la tente, le mobilier cultuel. Cette tente qui va avoir pour fonction de représenter symboliquement la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est à ce moment-là que le peuple perd patience, ne voyant pas Moïse revenir, et il presse Aaron de leur faire un dieu, des dieux même plus précisément, qui marchent devant eux. Et cette démarche du peuple, elle est traversée d'ambiguïtés étranges et multiples. C'est parce qu'ils ont perdu de vue leur chef humain visible qu'ils veulent un Dieu visible. La confusion des deux, ou leur caractère interchangeable, est quelque chose de surprenant. Comme si une image de Dieu divine pouvait remplacer un chef qui avait disparu. Et puis il désigne aussi la divinité par un pluriel. Aussi bien dans leur démarche auprès de Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, que dans leur célébration de l'idole, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Et malgré cette constance dans l'emploi du pluriel, il n'y a qu'une seule image, il n'y a qu'un seul veau d'or. Et puis, autre ambiguïté encore, la divinité qui est ainsi vénérée sous la forme d'un jeune taureau, cette divinité n'est pas censée être différente de Yahvé, celui que le peuple appelle Yahvé, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. C'est au moins ce qu'essaie de faire valoir Aaron, qui, voyant l'engouement du peuple pour la statue qui a été ainsi réalisée, proclame « Demain, il y aura fête pour Yahvé ». Mais derrière toutes ces équivoques, une chose est claire. Dieu avait interdit toute représentation divine et Israël a désobéi à ce commandement qui avait été répété. C'est le deuxième commandement du Décalogue, n'auras pas d'autre, tu ne te feras pas d'image taillée. Et puis ce commandement a été répété en avant-propos du Code de l'Alliance, à la fin du chapitre 20. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent, ni des dieux d'or, vous n'en ferez pas. Tragique désobéissance qui vient remettre en cause tout le processus engagé depuis l'arrivée au Sinaï et même depuis que Dieu avait pris en main le sort de son peuple pour le libérer d'Égypte et même depuis que Dieu avait fait des promesses aux patriarches. Puisque maintenant Dieu se déclare prêt à anéantir le peuple, décidé à anéantir le peuple et à tout recommencer à zéro avec Moïse. Comme s'il n'y avait rien eu par le passé. Je ferai de toi une grande nation, c'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alors c'est à désespérer de l'être humain, à désespérer de sa capacité à entrer dans les projets de Dieu. Accomplissez pour lui les plus grands prodiges, délivrez-le de la détresse la plus grande, alors qu'il est prêt d'être anéanti. Montrez-lui le spectacle le plus impressionnant, celui du Sinaï, à tel point que le peuple tremble de peur, qu'il se voit déjà mort. Expliquez-lui clairement ce que vous ne voulez pas, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et puis laissez-le sans surveillance, guère plus d'un mois, et voyez ce qu'il vous fait. Un veau d'or. Il se prosterne devant lui. Et il dit, voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et il offre des sacrifices. Et il fait la fête. Voyez comme il est heureux. Tout va basculer. Et pourtant, non. Dieu ne va pas détruire le peuple. Dieu va accepter d'en reprendre la conduite jusqu'au pays promis. Et tout dans l'ensemble du livre de l'Exode montre que le drame est surmonté. D'abord, le sanctuaire va être confectionné selon les instructions données. La reprise mot pour mot des instructions des chapitres 25 à 31, dans les chapitres 35 à 40, il faut lire les deux, je ne pense pas que vous alliez jusqu'au bout parce que c'est très lassant, les chapitres 35 à 40 égrènent inlassablement, verset après verset, les descriptions des chapitres 25 à 31. C'est la preuve que ce qui avait été prévu est quand même réalisé. Et puis, deuxième preuve que le drame est surmonté, quand le sanctuaire sera érigé, la nuée qui couvrait le Sinaï, lorsque Dieu y était descendu, cette nuée va couvrir le sanctuaire de toile. La gloire de l'Éternel, le mot est employé, la gloire de l'Éternel va remplir la tente, à tel point que Moïse lui-même, Moïse qui avait été convoqué sur le sommet de la montagne du Sinaï, Moïse ne pouvait pas pénétrer dans la tente. Et puis, le drame s'achève par une nouvelle théophanie. Une théophanie qui répond en quelque sorte à la première où Dieu avait donné sa loi. Dieu prend encore la peine de manifester sa présence sur la montagne, de graver deux nouvelles tables de pierre identiques aux premières. Et puis Dieu proclame son nom. Et il le proclame dans une déclaration qui est symétrique à celle qui accompagnait le deuxième commandement que précisément le peuple vient de transgresser. Tu ne te feras pas d'image taillée, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors la symétrie de ces deux déclarations, celle du deuxième commandement et celle de la révélation de Dieu à Moïse au chapitre 34, cette symétrie est remarquable. On y trouve de part et d'autre les troisième et quatrième générations de la punition, et puis les mille générations de la bonté. Mais dans l'ordre inverse. Dans le deuxième commandement, c'était d'abord la sévérité, et puis ensuite la bonté, en contrepoint. Et après le veau d'or, c'est d'abord la bonté, et puis la sévérité, en contrepoint. Et dans chaque cas, nous avons une qualification de Dieu. Pour le deuxième commandement, c'est Dieu jaloux. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Et dans la révélation du chapitre 34, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, grand par la fidélité et la bonté. Et voyez l'accumulation des qualificatifs lorsqu'il s'agit de parler de la grâce de Dieu, de célébrer la grâce de Dieu. Elle est impressionnante lorsqu'on l'en met en regard du seul qualificatif de jaloux dans le deuxième commandement. Il y a 7 mots différents pour énoncer la bonté de Dieu contre un seul qui mentionnait sa sévérité. Et l'énoncé des 7 termes marque une amplification progressive. Il y a d'abord deux adjectifs qui font assonance. Rachum v'chanun. Vous avez les A, U et Rachum v'chanun. Ça va bien ensemble, hein, compatissant et miséricordieux. Et puis ensuite, il y a un adjectif doublé d'un substantif, lent de colère, erechapayim. Et puis un autre adjectif, doublé non pas d'un seul, mais de 2 substantifs. Rav chesed ve'emet, abondant de bonté et de fidélité. Il y a comme un emballement des termes. 1 plus 1 plus 2 plus 3. Et l'emballement est encore plus manifeste lorsque, au lieu de compter les mots, on compte les syllabes. Ça fait 2 plus 3 plus 5 plus 7. La grâce, en s'énonçant, devient de plus en plus généreuse, se répandant comme un flot plus puissant. Et puis, dans la révélation du chapitre 34, nous est révélé que Dieu pardonne. Alors que dans le deuxième commandement, du côté positif, il était question de la bonté de Dieu ou de la fidélité de Dieu pour ceux qu'il aime. La révélation du chapitre 34 nous dit que Dieu est un Dieu qui pardonne. Et de nouveau, avec le pardon de Dieu, une triple énumération qui pardonne le péché, enfin la faute, la rébellion, le péché. Donc ce qui apparaissait comme un drame, et qui était bien un drame, se révèle pour Dieu une occasion de révéler un trait profond de sa personne, un trait qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent la possibilité de donner la pleine mesure. C'est comme ces personnalités qui, dans l'épreuve, révèlent des richesses insoupçonnées. C'est dans l'épreuve du péché inexcusable de son peuple que Dieu peut donner la pleine mesure de sa grâce. Mais il ne faut pas céder à la tentation de nous hâter trop vite vers la conclusion heureuse et lumineuse. Parce que les péripéties du drame sont essentielles à une juste appréciation de la grâce divine, à la perception de tout son caractère inouï, bouleversant, miraculeux. Quand Dieu pardonne, ce n'est jamais banal. Ce n'est jamais normal. Alors entrons un peu dans le drame et dans les péripéties de sa résolution. Et d'abord, pourquoi était-ce un si grand crime que de se confectionner un veau d'or ? Notre mentalité occidentale moderne a beaucoup de peine à comprendre qu'une offense à la divinité soit quelque chose de si grave. Il n'y a, pense-t-on, pour les gens civilisés, de crime que contre les humains. Et en matière de religion, c'est la tolérance qui doit prévaloir, tant qu'on ne fait pas de mal aux autres. Et nous avons beaucoup de peine à comprendre l'indignation profonde, l'indignation viscérale qui est éprouvée en d'autres temps ou aujourd'hui en d'autres régions du monde contre ce qui est considéré comme une atteinte à la religion, à la divinité. Alors cette polarisation sur le mal fait aux humains comme étant le seul mal véritable, le seul mal qui pose vraiment problème. Cette polarisation n'est probablement pas sans rapport avec l'influence exercée sur notre mentalité par le message chrétien. C'est bien la Bible qui nous apprend à aimer Dieu et notre prochain, et qui nous dit que l'un ne va pas sans l'autre, et que de prétendre aimer Dieu sans aimer son prochain, c'est un mensonge. Mais lorsque ce message-là, de la Bible, lorsqu'il est sécularisé, lorsqu'il est séparé de sa référence à Dieu, lorsque cette référence à Dieu s'estompe, devient indistincte, alors il ne reste plus que l'amour du prochain et on ne comprend plus pourquoi l'offense à Dieu serait si grave. Une façon de contourner le problème serait d'expliquer si la confection et l'adoration du veau d'or était si grave, c'est parce qu'en fait, elle portait atteinte à la dignité humaine. Selon le message biblique, Dieu a créé l'être humain à son image. Donc l'être humain, nous avons pour fonction de représenter Dieu dans le monde. On a parlé du pape hier, représentant de Dieu sur la terre, mais il n'y a pas que le pape, chaque être humain, même pas seulement chaque chrétien, mais chaque être humain a été créé dans le monde pour représenter Dieu. Alors, fabriquer des images pour les adorer, c'est porter atteinte conjointement à Dieu et à l'être humain. Voyez ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont été créés pour représenter Dieu dans le monde. Voyez-les prosternés devant un animal, un veau, c'est même pas un grand taureau, c'est un petit taurillon, et en plus fabriqué, incapable de se mouvoir, incapable de rien faire, et qui sont dans l'adoration et qui disent « Voici tes dieux qui t'ont fait monter d'Égypte ». Mais quelle déchéance ! Quelle atteinte à la dignité humaine ! L'être humain n'a pas été créé pour ça ! Alors l'observation est juste et la Bible nous invite à la faire. Elle confirme que la cause de Dieu et celle de l'être humain, lorsqu'elles sont bien comprises l'une et l'autre, à la lumière de la révélation biblique, elles sont solidaires. Mais ce que nous invite à reconnaître le récit, c'est que l'offense à Dieu, que nous parvenions ou non à comprendre sa corrélation avec un tort fait à l'être humain, cette offense à Dieu est en soi de la plus extrême gravité. C'est ce que Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël dans le deuxième commandement. En assortissant ce commandement d'une longue déclaration sur la jalousie de Dieu. « Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute. » Alors, jalousie ne signifie pas bien sûr que Dieu envierait des biens ou des qualités qui ne seraient pas les siennes, mais cela souligne qu'il ne tolère pas de rival, ni d'autres dieux, ni même d'image. Et il est significatif que cette mention de la jalousie de Dieu, que cette mention ne suive pas le premier commandement qui parle d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Voilà ce qui serait logique. C'est ce qu'on attendrait. Mais la mention de la jalousie de Dieu, elle intervient de manière inattendue à la fin du deuxième commandement qui interdit les images. C'est-à-dire que l'amour exclusif de Dieu est offensé non seulement par l'adoration d'autres divinités portant d'autres noms que lui, qu'on les appelle Baal, Astarté ou autres, mais que cet amour de Dieu est déjà offensé par le seul fait de le représenter sous forme d'image. Et on voit bien là l'inanité des manœuvres d'Aaron, qui essaie de maintenir l'idolâtrie dans des limites plus ou moins acceptables en proclamant une fête pour Yahvé devant l'idole. Il n'y a aucune voie moyenne. Il n'y a aucune atténuation possible. Et dans les démarches hardies, répétées, déployées par Moïse, et Moïse parle à Dieu avec beaucoup de force et d'audace. Il va jusqu'à demander à Dieu de se repentir du mal qui arriverait au peuple. Dans toutes ces démarches, jamais, jamais Moïse ne cherche à atténuer en rien la faute du peuple ou à lui chercher des excuses. Ce peuple a commis un grand péché, dit-il. Le seul dans l'histoire qui cherche des excuses, qui essaye des excuses, c'est Aaron. Et ses excuses sont pitoyables. Il dit : j'ai mis l'or au feu et il en est sorti ce veau. La gravité de la faute, elle ressort dans le récit, elle ressort de la sanction ou des sanctions qui sont prévues par Dieu pour punir cette faute. Elle ressort de la longueur, de la complexité des démarches entreprises par Moïse pour obtenir le pardon. Moïse n'obtient pas que des succès, il essuie aussi des refus. Et il persévère. Et puis, la gravité de la faute, elle ressort aussi de la rigueur des mesures disciplinaires qui sont mises en œuvre par Moïse pour mettre fin à l'infraction et pour rétablir l'ordre. Dieu ne pardonne pas sans autre, ni facilement. Et deux termes employés pour Dieu nous renvoient en pleine figure et en plein cœur toute l'intensité de la confrontation lorsque Dieu pardonne. Il y a le mot de colère. Dieu dit à Moïse : laisse-moi, ma colère va s'enflammer et je vais les supprimer. Chapitre 32, verset 10. Et puis il y a le verbe se repentir, employé pour Dieu. Moïse implore Dieu : reviens de l'ardeur de ta colère. Repens-toi du mal qui arriverait à ton peuple. Et la suite explique, Dieu se repentit du mal qu'il avait dit faire à son peuple. Ces deux mots, colère, se repentir, sont deux mots qui sont typiquement humains. Comme humains, nous connaissons chez nous, de l'intérieur et puis chez les autres, nous en connaissons les effets aussi, de cet emportement qu'on appelle la colère, qui nous fait réagir parfois très violemment à ce qui nous heurte, nous blesse, nous paraît inacceptable, je dis parfois violemment, mais aussi parfois intérieurement et de manière aussi tout aussi profonde, très profondément. Et puis, notre fragilité, nos erreurs, nous contraignent à l'occasion à changer d'avis, à regretter plus ou moins amèrement ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, à revenir sur ce que nous nous étions jurés de faire. Tout ça, nous le connaissons bien. Mais Dieu pourrait-il, lui aussi, être secoué de passions aussi fortes ? Certes, ce sont des façons de parler. Elles ne doivent pas nous laisser penser que Dieu serait sujet aux mêmes fragilités et surtout aux mêmes défauts que nous. N'allons pas nous imaginer la colère de Dieu comme une colère qui serait sans motif ou comme une colère qui serait incontrôlée, incontrôlable. N'allons pas nous imaginer sa repentance comme de l'inconstance, ni surtout comme le regret de fautes qu'il aurait commises ou qu'il aurait eu l'intention de commettre. L'Ancien Testament, qui nous dit à plusieurs reprises que Dieu se repent, l'Ancien Testament prend soin aussi d'affirmer « Dieu n'est pas un humain pour mentir, ni un fils d'humain pour se repentir. » Donc, la colère et la repentance de Dieu n'ont pas leur source en une quelconque imperfection interne de Dieu. Mais elles nous signalent l'intensité, la profondeur, la violence de sa réaction. D'abord, face au mal, c'est la colère. Il est intéressant d'ailleurs de constater que Moïse, qui s'est employé sur la montagne à apaiser la colère de Dieu, lorsque Moïse se retrouve en bas et qu'il voit le peuple livré à l'idolâtrie devant le veau d'or, alors Moïse lui-même est saisi de colère et il jette les tables de la loi et les brise. Donc Dieu est très profondément remué, indigné par le mal, mais Dieu est aussi très profondément remué par le malheur des humains. Et alors que sa colère légitime contre le mal devrait avoir pour conséquence l'anéantissement du peuple, Moïse sait qu'on peut au moins essayer de le faire changer d'avis en le rendant attentif au malheur qui frapperait son peuple. Et c'est bien ce que Moïse tente de faire et qu'il obtient. Ce drame complexe où la grâce de Dieu triomphe au travers de la colère et du châtiment est une remarquable préfiguration de l'œuvre de grâce accomplie par Jésus-Christ. Je relèverai juste un détail. Dans l'une des phases de l'intercession de Moïse, lorsque Moïse tente d'obtenir l'expiation de la faute commise par le peuple, Moïse va jusqu'à mettre son propre sort en jeu pour faire pencher la balance. Dieu lui avait dit en quelque sorte, « Bon, ce peuple, il n'y a rien à en faire, on recommence tout à zéro avec toi. » De bonne base, de nouveau. Et Moïse dit, « Pardonne, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Verset 32 du chapitre 32. Moïse est prêt à se sacrifier pour que le peuple soit pardonné. Alors on ne peut pas dire qu'il s'offre à la place du peuple, mais il se déclare à ce point solidaire du sort de son peuple, lui qui pourtant n'a pris aucune part au péché qu'il a commis, il se déclare à ce point solidaire que Dieu ne pourrait pas les dissocier dans la condamnation ou dans le pardon. Que répond Dieu à ce dévouement admirable, émouvant de Moïse ? D'un revers de main, il écarte cet élan généreux. Il est irrecevable. C'est celui qui a péché que j'effacerai de mon livre. Maintenant, toi, va, conduis le peuple où je t'ai dit, et mon ange marchera devant toi. et quand je choisirai de le faire, je m'occuperai d'eux à cause de leurs péchés. Versets 33 et 34 du chapitre 32. Moïse, comme victime solidaire, est récusé. Mais comment ne pas voir derrière ce dévouement impossible de Moïse? Comment ne pas voir se profiler la figure du Christ qui, lui, s'est offert non seulement comme solidaire des coupables, mais comme substitut à la place des coupables que nous sommes? Jésus qui donne tout son fondement à la grâce de Dieu qui est proclamée lors de la nouvelle théophanie, un Dieu qui pardonne. Car dans le texte de l'Exode, étrangement, le pardon de Dieu reste encore incertain. Ce pardon n'est jamais explicitement déclaré. Et lorsque, dans la phase ultime de sa mission d'intercession auprès de Dieu, lorsque Moïse est admis sur la montagne pour voir la bonté de Dieu, pour voir la Dieu de dos, pour contempler sa gloire, Moïse demande encore à Dieu de pardonner. Que le Seigneur marche au milieu de nous et tu pardonneras notre faute et notre péché. Mais Dieu ne répond pas explicitement à cette demande en disant « Je pardonne ». Pour obtenir vraiment et définitivement le pardon de Dieu, il faut un intercesseur plus convaincant que Moïse. Il faut une victime moins symbolique que l'agneau pascal. Et l'un et l'autre se retrouvent parfaitement réunis en Jésus-Christ. Lui qui est l'agneau pascal de notre libération, lui qui est l'intercesseur de notre pardon. Merveilleuse cohérence de la personne et de l'œuvre de Dieu. Dieu pardonne. Quel merveilleux message Dieu nous donne à transmettre aujourd'hui. Je pense qu'une des difficultés de notre mission, une difficulté spécifique à notre temps et à notre culture, c'est que pour beaucoup de nos contemporains, il s'agit d'une chose qui est devenue banale. Dieu pardonne, c'est son métier. Alors comment faire? Je ne vais pas recommencer une conférence maintenant, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'apologétique. Mais laissant l'apologétique de côté, mes frères et sœurs, soyons convaincus que lorsque Dieu pardonne, ça n'est jamais, jamais banal. La cohérence de l'action de Dieu dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, dans la sévérité, la sainteté et la grâce, nous permet d'en avoir une perception intellectuelle que le Saint-Esprit aussi renouvelle en chacun de nous la perception encore plus profonde de cette immensité, de ce caractère inouï, extraordinaire de cette affirmation. Dieu fait grâce, Dieu pardonne, et que Dieu nous aide les uns les autres à en être les témoins vivants, convaincus nous-mêmes. Amen.